Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot, Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Gilbert Brivois.
Stéphane Guy est là, Daniel Ariolo
est là.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais pourtant, c'est pas la plus longue.
Bon, c'est pour commencer à s'habituer.
Ouais.
Aux défaites.
J'espère pas.
Bon, on va en reparler de la Coupe du Monde tout à l'heure. Pour l'instant, restons sur le match du soir. Juste avant, quelques résultats quand même, parce qu'il y avait des matchs intéressants ce soir. Bon, alors, il vous a pas échappé que l'équipe de France restait dans la fameuse Ligue A de la Ligue des Nations. Tout ça grâce aux Croates qui ont gagné en Autriche 3-1. La Croatie qui jouera donc la phase finale. Dans l'autre poule du soir, les Pays-Bas ont battu la Belgique 1-0. Donc les Pays-Bas joueront aussi la phase finale. Ils ont gagné, c'est un peu le choc du soir, hein, Pays-Bas-Belgique. But de Van Dijk.
On connaît deux équipes de la phase finale, mais on ne sait pas quand aura lieu cette phase finale.
Exactement. Puis la Pologne a gagné au Pays de Galles 1-0. Les Gallois sont relégués. Alors les Turcs ont réussi l'exploit de perdre aux îles Féroé 2-1.
Personne perd là-bas normalement.
Bah oui, ils l'ont fait. Mmh. Bah ils ont pas joué en Bretagne pour tirer des coups francs aux îles Féroé. Eh oui. C'est ça qui est. Et puis l'Australie, prochain adversaire de la France, jouait un match amical aujourd'hui, ils ont encore gagné. Eux, ils gagnent leur match amical.
Toujours contre la Nouvelle-Zélande.
Ouais, bah
ils font des allers-retours et des re-allers-retours.
C'est pratique. Voilà. Ah oui, je voulais revenir un peu sur le milieu quand même. Parce que sur Direct Studio, on nous dit ouais, quand même, Tchouaméni, Kamavinga, ils jouent au Real, c'est pas n'importe quoi. Et puis les latéraux, Ferland Mendy, Pavard, c'est
des grands clubs aussi. Ça veut rien dire.
C'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Parce que est-ce que ça a une vraie signification de se dire, regardez sur le papier, regarde les clubs des Danois, regarde les clubs des Français. Alors, évidemment que c'est pas si simple.
Mais en fait, je comprends même pas comment. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui connaissent rien du tout au foot pour expliquer ça. Tu joues pas avec la même tactique, pas avec les mêmes coéquipiers, c'est pas le même contexte, c'est pas la même pression. C'est pas la même expérience. C'est pas du tout la même chose. Et l'histoire du foot est pleine de mecs bons en sélection, moins bons en club, de gars qui jouaient plus en club et qui arrivent dans une compétition internationale, ils retrouvent leurs potes et ils sont bons.
La preuve, ce soir, on s'amuse nous-mêmes des performances de Schmeichel et de Dolberg.
Bien sûr.
Dans un contexte, quand ils mettent le maillot danois, ça n'a rien à voir avec celui de.
L'histoire est pleine.
Mais Tchouaméni, il faut pas s'inquiéter. Moi, je trouve que on n'a pas d'inquiétude. On a un milieu de terrain de niveau international.
Oui, mais le temps qu'il s'impose en équipe de France, qu'il joue dans les mêmes dispositions avec les mêmes coéquipiers, à qui tu donnes le ballon, comment, quels sont les circuits, c'est un bloc haut, c'est un bloc bas. L'histoire de.
Mais est-ce qu'on va jouer déjà à 5 ou à 4?
Exactement.
Ça, c'est une vraie question.
France 2002, tu arrives avec probablement une des meilleures équipes du monde. Avec l'Argentine, a une équipe de malades mentales en 2002.
Les meilleurs attaquants, on avait les meilleurs attaquants du monde.
Et les deux équipes s'écroulent dès le premier tour.
Oui, les meilleurs buteurs de chaque grand championnat.
Idem pour Italie 2010, Espagne 2014, Allemagne 2018. Bon voilà, enfin, je comprends pas qu'on continue à part si c'est des enfants de 14-15 ans qui posent la question. Il y a n'importe quelle personne qui suit le foot depuis 10-15-20 ans doit savoir que ce qui se passe en équipe nationale, en club, les performances des joueurs entre club et nation, ça n'a souvent rien à voir. Ça n'a souvent rien
Daniel,
à voir.
De la même façon que fallait pas jeudi soir chanter la Marseillaise parce qu'on avait battu l'Autriche au Stade de France au terme d'un match plaisant, il n'y a pas lieu non plus au terme de ce match-là de s'inquiéter.
Il y a
plus à s'inquiéter sur une série de matchs quand même qui n'est pas concluant et surtout sur une compète qui arrive dans un mois où il n'y a plus un match à jouer maintenant, plus de préparation et où il y a plein de points d'interrogation. On a rarement abordé une compète avec autant de points d'interrogation.
Mais il va y avoir pas mal d'équipes qui vont être comme ça. Les Anglais arrivent avec des points d'interrogation. Les Espagnols qu'on paumait contre les Suisses arrivent avec une sorte d'inconnu.
Allemands qui viennent de perdre, par exemple.
Exactement. Il y a peu d'équipes qui arrivent avec de grosses certitudes. Donc tout va être remis. Moi, la seule question que je pose pour l'avant, c'est qui va jouer. Et je trouve que la zone du milieu de terrain pose problème. Et devant, si on est sûr que ça part avec Mbappé, Benzema, avec qui ça va jouer? Avec Griezmann en 10, donc deux attaquants. Donc il faut trouver trois milieux de terrain. Ou est-ce que ça joue toujours à 5? Donc c'est une doublette de milieu de terrain. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de questions. Là-dessus, on n'a pas même l'identité des joueurs. Dans les équipes que j'ai citées qui peuvent arriver avec des problèmes qui n'ont pas brillé ces derniers temps, je trouve que les équipes, c'est plus clair de savoir qui va jouer, d'identifier les joueurs. Nous, au milieu, derrière...
Après, Daniel, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'on a souvent vu, et surtout en France, Coupe du Monde 82, Coupe du Monde 2018, une équipe démarrer le tournoi parce qu'on avait des certitudes justement sur un 11 de départ, et puis ça se passe pas bien sur le premier match, on change et très vite l'alchimie prend.
Ça peut,
donc
ça peut,
c'est, oui, c'est il faut être. Alors après, là il y a une différence quand même qui est une préparation hyper. Enfin, il y a une non préparation, il y aura pas de préparation.
Déclate Deschamps, la première. Je pense pas que c'est un naufrage, dit-il. On a eu aussi beaucoup d'occasions. On a été défaillants. On a commis des erreurs sur les relances. C'est une équipe de France qui est jeune, qui n'a pas, pour la plupart des joueurs, une expérience du haut niveau. C'était pas une question de système. Quand vous avez quatre corners et qu'à chaque fois, un Danois est seul, vous pouvez jouer 3 à 5 ou 12, ça change rien. Il ne faut pas s'inquiéter. Le fait de récupérer tous les joueurs qui ont l'expérience internationale fera du bien. Pas d'inquiétude. C'est dur pour tout le monde. Hier, je regardais d'autres matchs. Il y a d'autres grandes équipes qui perdent aussi.
C'est vrai.
Donc, il faut pas se penser plus fort que les autres, mais il faudra se battre. Voilà ce que dit Deschamps.
Absolument. Mais ça n'enlèvera pas ma question, qui au milieu ? Voilà. Moi, j'ai un problème.
Tu as posé 15 fois.
Moi, j'ai un problème au milieu de terrain.
Bon. Non, mais Daniel a raison d'appuyer là-dessus. Et surtout qu'évidemment,
et c'est le déficit c'est créatif. Il y a un déficit créatif.
Le milieu de terrain, et puis quand même, on n'a pas de certitude défensive. Depuis la Coupe du Monde 2018, on n'a pas retrouvé une charnière du niveau de Varane ou Umtiti.
Alors justement, tu voulais parler de la défense, Stéphane. C'est un peu le même constat que sur le milieu. C'est-à-dire là, on se retrouve avec des gars...
Ça serait quoi, qui, on va, qui imagine, tout le monde est sur pied. On va au milieu, sur sa gauche, Hernandez.
Oui, ou Hernandez. Les deux frères Hernandez.
Oui, non, Théo dans le couloir.
Théo d'un couloir et l'autre dans l'axe.
Hernandez dans l'axe, à gauche de Varane, à droite de Varane, c'est qui?
Et c'est bien un problème.
C'est là où c'est un peu moins.
Là, c'est pas mal. Aujourd'hui, le numéro 1 qui est pas. Mais moi je pense qu'il faut.
À côté, et donc,
déjà en direct.
On sait pas.
Seul dans la surface. Donc,
allez, on écoute.
Là, vous pouvez jouer, peu importe le système. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Voilà. On a fait de très bonnes choses il y a 3 jours. Cette équipe du Deux Amnark avait fait beaucoup moins il y a 3 jours. Les joueurs étaient prévenus de ce qui nous attendait ici, devant leur public, en termes de d'engagement, duel. Ils ont été bien plus solides et consistants que nous.
Et on écoute encore une réponse de Didier Deschamps.
Là, Georges Roux, RTL, on sait évidemment... Le contexte...
on parle de contexte, là, apparemment. Production de 20 peut-être. Non. Oui.
Bonsoir, Didier Nicolas, Georges Roux, RTL. On sait le contexte avec tous les absences, mais est-ce que vous ressortez quelque chose de positif ce soir?
Est-ce que vous sortez de positif ce soir?
Écoutez, quand vous perdez, je vais pas noircir la situation, être inquiet, la situation par rapport aux blessés, tout ça, vous le savez. On connaît encore une piqûre de rappel aujourd'hui par rapport à ce qui va nous attendre dans 2 mois. C'est le haut niveau. À partir du moment où on en met moins, c'est compliqué pour tout le monde. Comme j'ai vu des équipes qui ont joué hier, pour qui ça a été compliqué aussi. Le très haut niveau demande des exigences maximales à chaque fois. Et quand c'est sur un tournoi final comme une Coupe du Monde, encore plus, peu importe l'adversaire.
Bon, voilà.
Parce que aujourd'hui, la situation, je ne vais pas prendre d'excuses parce que je ne les ai pas pris par rapport au premier match. Évidemment qu'il y a des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui ont appris déjà jeudi et apprendront. L'important, c'est de pouvoir récupérer toutes nos forces pour dans 2 mois.
Voilà. Oui, un mot sur le coup de pied arrêté tout de même là, parce que c'est vrai qu'il y a souci.
Pas terrible sur le coup de pied arrêté. On prend.
Se rappeler l'escabeau de Raymond Domenech.
C'est vieux, mais il y a danger quand même. Soit en première période là, de l'année toujours tout seul.
De l'année, il s'est baladé.
Il y a eu quatre corners de consécutifs. Effectivement, il y avait toujours un Danois seul la plupart du temps de l'année qui a fini par marquer, non? Non, c'est pas lui qui marque.
Non,
le deuxième.
Pas lui, c'est Olsen. C'est de la surface, Olsen, ouais.
Olsen. Bon. Après, là, les coups de pied arrêtés, c'est une question d'implication personnelle et de concentration, plus qu'autre chose. Ça y est, là-dessus, Deschamps
a
raison.
Après, l'adversaire a le droit de bouger, que t'es un mec qui embarque deux joueurs, il y a des combinaisons aussi, il y a des mouvements. Il y a un mouvement d'homme dans une surface.
Bon, mais disons qu'on n'est pas habitué.
T'as le droit, si trois mecs bougent de façon intelligente, t'as le droit d'être intelligent toi aussi et de pas te faire embarquer comme un teubé, parce que le mec fait un pas en avant, un pas en arrière. On a l'impression, dans la surface, à chaque fois qu'il y avait le ballon arrivé, t'as l'impression qu'il n'y avait pas énormément d'intelligence dans la défense des Bleus, quand même.
De l'année, en plus, c'est pas un perdreau.
Exactement.
Hakim est là, au 32-16. Salut Hakim.
Oui, bonsoir.
Toi, tu voulais parler de tactique.
Ouais, de tactique, déjà. Et de tactique, mais aussi de gâchis.
Ah, vas-y, on t'écoute.
De gâchis, dans le sens où, unanimement, on est l'une des plus grandes nations d'un point de vue individuel au monde.
Bon, non, je suis pas forcément d'accord, mais bon, vas-y, continue.
Je peux te le dire, hein, défensivement, que ce soit défensivement au milieu. Après, attention, Daniel, hein, je te connais par cœur, je t'écoute depuis 15 ans. Que ce soit dans l'after ou dans le poker, je te connais comme mon oncle, tu vois.
Comme ton oncle.
Ouais, comme mon oncle.
Oh, bah, tonton Daniel. Tu peux m'appeler tonton, alors.
Ouais, tonton Daniel. Mon tonton. J'ai 36 piges, mais tu es mon tonton Daniel, et tu me seras jamais indifférent. Mais, toutes tes approches, que ce soit pokeristique ou footballistique, je les connais par cœur. Voilà. Et c'est la première
fois. Donc il va pas te bluffer, c'est ce que tu veux dire.
Il ne sera pas sur ce coup-là. Donc, d'un point de vue, potentiellement, on est la meilleure équipe au monde. Donc c'est un peu.
Non, pas au milieu de terrain, je suis pas d'accord au milieu.
D'accord, on va y arriver, t'inquiète. Je sais comment tu vas m'amener dans ta danse, j'arrive, Daniel. Que ce soit derrière Saliba, bon, Varane, je sais ce que tu vas dire, hein. Ça fait un an et demi d'y est, c'est pas acclimaté. En fait, j'ai le truc. Il y a 4 ans, on disait Kanté, dans 4 ans, il aura 29 ans. Varane, il aura que. En fait, on se voyait, on se projetait tellement. Mais je veux me recentrer, hein, parce que je sais que j'ai pas un temps d'antenne trop. Je connais Gilbert. En fait, là.
C'est ton deuxième tonton, Gilbert, ou pas?
Oui, Gilbert, c'est le meilleur présentateur. Télé ou radio, mais c'est subjectif.
Indiscutable.
C'est indiscutable.
Mais là, en fait, j'ai envie de me recentrer sur Deschamps.
Vas-y, on t'écoute.
Allez, vas-y.
Il est parti sur un 3-4-3 expérimental il y a un an. On est d'accord, hein? Il s'est perdu.
Ah, on t'entend pas, Hakim, parle bien dans le téléphone. Ah, attends, non, on va essayer de le reprendre.
Qu'est-ce qui se passe?
D'ailleurs, en fait, il parlait de Saliba. C'est peut-être lui le troisième côté
bon.
Droit.
Pas très bon.
Il est bon avec Arsenal.
Excusez-moi.
Alors, Hakim est de retour. Il est parti il y a un an sur un 3-4-3 expérimental. D'accord. Il s'y est complètement perdu. Il n'a essayé aucun schéma tactique depuis que Benzema est revenu, qu'il a mis son enroulé contre l'Espagne il y a un an et demi en acheté, d'accord. Et on a pris. La coupe à deux balles que Daniel n'aime pas du tout, la Ligue des Nations, d'accord.
Ouais.
Il n'a rien essayé d'autre.
Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Il est resté focalisé là-dessus.
Ouais.
Et bon, Théo Hernandez n'est plus là, il n'est plus présent, donc on n'a plus le piston gauche aussi flamboyant qu'on avait à cet instant-là.
Ouais.
D'accord. Mais après, il faut essayer d'autres choses. Il faut essayer la défense à 4, un 4-3-3, un 4-4-2 à plein.
Ça, c'est vrai que même en cours de match, il change pas.
Oui, mais ça, il fait pas ça. Tu sais, rappelle-toi, contre la Suisse, il essaye un nouveau schéma, ça marche pas du tout, il revient. En fait, là-dessus, il est jamais. Deschamps, il est jamais sûr de lui là-dessus. On a l'impression que ce qui compte, c'est manager les hommes, leur dire faites un bon match, mais sur les choix tactiques, l'orientation de jeu, Daniel, comment l'équipe va jouer, on n'a jamais de ligne directrice, hein.
Permets-moi de te couper, Daniel. Je pense que la Suisse, en toute sincérité, hein, je ne vais pas jeter la pierre à Deschamps. Quand on sort contre la Suisse, c'est un coup de... Bon, ça lui arrive rarement. Hein, c'est un coup de déchatte. D'accord.
Ouais, d'accord. Mais bon. 1,
il reste 8 minutes. C'est plus... C'est, bon, tu vas me comprendre. Hein, c'est
non, mais je veux bien dire que c'est un coup de déchatte sur la fin. Mais la première mi-temps, tu t'en sors, mais... déjà miraculeusement. Dans l'autre sens, les Suisses peuvent dire à ce moment-là que c'est eux qui n'ont pas de chance parce que franchement, ils ratent un péno, ils peuvent mener 2-0. Donc tu vois, c'est un balancier, la réussite. Mais globalement, le match a été super mal géré tactiquement. À croire à 3-1 que c'était fait, avec des joueurs qui bougeaient plus, il n'y a pas eu les bons changements quand il fallait. Donc c'est pas que une affaire de déchat, comme tu dis. Il y a eu des vases communicants dans cette partie finalement à l'époque.
Stéphane, tu là-dessus?
Oui, non, mais on a joué une Coupe du Monde en 4-2-3-1 et un euro principalement avec cette défense en 3-4-3. Donc moi je pense qu'il peut revenir à une défense à 4. C'est pas, je pense pas qu'il soit fixé sur cette.
Honnêtement, quand tu dis on gagne la Coupe du Monde, comment tu l'as dit, en quelle tactique?
4-2-3-1.
Moi, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, la Coupe du Monde, je n'arrive pas à voir quelque chose de très, très clair.
4-3-3, enfin, je veux dire, c'est...
Le truc qu'on voit chez Deschamps, c'est est-ce qu'il joue avec 4 défenseurs ou est-ce qu'il en aligne 5 Mais sinon, pour le reste, même à la Coupe du Monde, avec la position un peu bâtarde qu'avait Matuidi, c'était 4-3-3. Avec la position également pas nette qu'avait Mbappé, t'avais 4 défenseurs, ok. Giroud qui jouait 9.
Ah si, t'avais Mbappé qui jouait sur un côté. Quand même, la Coupe du Monde, il jouait sur un côté.
Oh, il tournait beaucoup, il était un peu libre. C'est très difficile de savoir vraiment si t'avais un schéma. C'était
comme Griezmann, t'auras toujours du mal à enfermer Griezmann dans une position précise.
Donc, la conclusion de tout ça, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est un peu le mouvement qui détermine le schéma. Chez Deschamps, c'est jamais complètement clair.
Le replacement,
clair.
Surtout le replacement.
Voilà,
et c'est jamais ce soir, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi un vrai problème des offensifs. C'est-à-dire que comment Giroud, Mbappé, Griezmann assurent l'équilibre de l'équipe, ce qui était la grande force des équipes de Deschamps, et qu'on ne retrouve pas. Et les équipes de Deschamps qui prennent un but tous les matchs, ça n'existe pas. C'est pas son foot.
Ah, mais là, ça fait un moment que
c'est comme ça, maintenant. Bien sûr.
Hakim, un truc à rajouter?
Oui, une dernière chose.
Vas-y.
Alors, ça sera mon dernier point. Ousmane Dembélé, Daniel, tu sais qu'il a sa madame depuis janvier. Ça fait presque un an maintenant qu'il est marié.
Ouais.
Donc, il a une nouvelle hygiène de vie.
Absolument.
C'est un avion de chasse en club.
Absolument.
Pourquoi il joue 0 minute en 2 matchs?
Non, mais là, il a un problème au mollet, là.
Il était blessé
sur le deuxième match.
Oui, sinon ce soir c'était pas normal qu'on ne le voit pas.
Il était programmé pour ce match-là, mais il était blessé.
Non, mais attendez. Dembélé, on est bien d'accord, ce que dit Hakim est vrai. Attention, je parle un tout petit peu le Deschamps, moins bien que Jérôme Rotten. Je ne sais pas comment ils peuvent mettre Dembélé dans cette équipe.
Oui, Dembélé, ça va être un joker.
Pour moi, c'est un problème.
Ah, puis Dembélé, tu peux pas miser sur Dembélé avant une Coupe du Monde, c'est impossible. Tu sais pas dans quel état il sera.
Mais là. Il a l'air d'avoir.
Il a l'air de. Il a l'air. Sauf que ce soir, tu veux le mettre comme titulaire. Paf.
D'accord.
Pété au mollet.
On va dire si à une semaine de la Coupe du Monde, il est en forme, machin, comme tu le vois au Barça.
C'est un gars qui démarre la Coupe du Monde 2018, Daniel, oui, qui disparaît dès le deuxième match.
C'est un mec qui doit être titulaire, mais où est-ce que tu le mets dans un schéma de déchange, je ne sais pas. Moi, je vois à peu près ce que j'essaierais de faire. S'il est en forme, s'il a vraiment la tête à l'endroit maintenant.
3-4-3, c'est compliqué.
Non, mais
en 3-4-2, c'est compliqué.
Quand tu dis ça, c'est où est-ce que tu le mets?
Dembélé, pour moi, il faut revenir à une défense à 4.
Dans l'éventualité où il est titulaire.
Ouais.
Oui, voilà. Oui, parce que où est-ce que tu le mets?
Non, mais parce que l'attaque,
Mbappé. Pour entrer à la 60e à la place d'aller 30
ans. Parce que l'attaque, Mbappé, Benzema, Dembélé, tout le monde peut fantasmer dessus. Mais ça veut dire que tu dois revenir avec une défense à 4 et trouver 3 milieux de terrain.
Sauf qu'il va mettre Griezmann, Mbappé et Benzema. C'est une des rares certitudes qu'on ait sur l'équipe que va aligner Deschamps. Et les performances de Griezmann sur c'est plutôt rassurant. Moi, j'ai trouvé Griezmann sur ces deux matchs-là. Il a repointé un peu le bout de son nez. On a retrouvé un Griezmann un peu frais, un peu influent, un peu décisif.
C'était c'est vrai. Cela dit, les bouts de match qu'il jouait avec l'Atlético, il était souvent décisif aussi.
Oui, là, il est plutôt dans un bon mood.
Donc, ça, c'est pas mal. Il y a quand même quelques trucs positifs.
Bref. C'est pas très clair tout ça.
Hakim, merci beaucoup.
Salut Hakim.
C'est moi, je vous remercie. Et n'oubliez pas, on a deux fusibles à droite. On a Coman et Dembélé. Donc si l'un n'est pas là, l'autre est là. Donc,
Coman est blessé aussi en ce moment.
Si on arrive avec deux fusibles qui sautent à la Coupe du Monde, c'est vraiment pas de chance.
Oui, mais c'est pas exclu.
Oui. Je disais 13 blessés tout à l'heure. En fait, c'est 15. C'est vrai que c'est un truc de fou quand même. Ouais. C'est énorme.
Ouais, enfin blessé, il y a des blessés importants et.
Oui, bah non, mais c'est blessé, voilà, des mecs qui sont pas là. Donc là, t'es pas sur une équipe bis en fait, t'es sur un truc, t'es une équipe terre quoi. Bon, finalement, avec 15 blessés, c'est beaucoup. Tout à l'heure, d'ailleurs, c'était qui a parlé d'effectifs limités dans ces trois points tout à l'heure.
Réservoir.
C'est toi,
Daniel. Ouais.
Mmh. Bah, c'est ce que je dis. Donc là, on a touché du doigt que finalement. Pas non plus. Bon,
est-ce que tu en es, comme disait l'ancien sélectionneur,
les sélections sont concernées par ça finalement. Oui.
À gratter les fonds de tiroir.
Ah bah oui, bah quand t'appelles Truffert, qui est en fait chez les espoirs en face, parce que là tu te dis maintenant j'en peux plus, je vais pas rappeler encore un mec.
Il a pas gagné sa place sur les deux matchs hein. Parce que Jérôme Thomas il me dit il a gagné sa place, ça y est.
Ouais, il l'a vu rentrer, Jérôme Thomas il en pouvait plus. Hein. Ah mais Truffert, bon bah tant mieux pour lui, ça lui fait une super expérience. Bon, enfin, il normalement il doit jamais être là. C'est bon. C'est anormal. Vous parliez de pauvreté technique tout à l'heure dans vos trois points.
Non, Daniel, pas moi. Moi, je me dis ça.
Ah, si, moi, je maintiens. Dans l'équipe de France forte, donc celle de 2018, au milieu de terrain, quand Pogba est là et fort, mais encore une fois, il faut arrêter de parler de lui parce qu'il n'est plus là.
C'est sûr que Pogba Kanté, là, tu parles de joueurs.
Il y a plus de technique.
Bah, oui, Pogba Kanté, c'est ce qui avait mis au monde à l'époque.
À un moment, il faut de la technique. Et là, je trouve que c'est pauvre.
Chouameni, il est pas pauvre techniquement, Daniel. Il est pas pauvre techniquement.
Non, mais il est pas encore.
Et Kamavinga non plus. C'est pas ce qu'on peut lui reprocher ce soir. Il est tendre. Il est pas encore assez bien concentré.
T'as pas de.
C'est un bon joueur.
Les circuits de passe, la finesse que tu vois chez Eriksen, que tu vois quand la Croatie joue chez Modric ou Magère, ce genre de mec là. T'as pas vraiment ça, quoi. À un moment, j'ai bien vu que Tchouaméni faisait un peu plaque tournante. Il essayait d'orienter le jeu, mais il y a une ou deux. C'était une passe sur deux qui arrivait vraiment bien net et tout. Hein, il s'est mis à vouloir faire un transversal et tout. Tu vois, on n'a pas les milieux qu'on a pu avoir à une époque. Tu vois, t'as pas une sorte de Pirlo au milieu de terrain. On a pas ça dans notre football.
Alors,
c'est ces joueurs-là. T'as pas cette technique-là. T'as pas la technique des Espagnols. T'as pas, tu vois, ces joueurs-là. Il y a pas, quoi. On a d'autres qualités. On est très porté sur le côté athlétique.
Il y a un mix athlétique, technique chez Chouaméni. L'Espagne, ils aimeraient bien avoir Chouaméni, je pense. Hein. Par exemple.
L'Espagne.
Ouais, je pense, ouais.
Dans leur équipe nationale.
Ouais.
Mais
ouais,
qui leur manque en technique. Ils ont tout en technique.
Je te parle de mix athlétique-technique. C'est un joueur rare, Tchouaméni.
Oh, mais pas encore. Il n'en est pas là encore. On n'en est pas encore parlé.
C'est un
joueur qui a probablement un très bel avenir, mais c'est encore un jeune joueur. C'est pas un patron d'équipe, quand même.
Daniel,
et là, tu lui donnes le.
Partir du moment où on fait ce constat-là, ça veut dire qu'en fait, il faut quand même qu'il reste dans ce système, Deschamps. Parce que si tu veux jouer à 4 derrière, tu vas rajouter un milieu. Donc
moi, je jouerai à 4 derrière, en tous les cas.
Toi, tu joueras à 4 derrière.
Ah oui, je mettrai 3
milieux. Voilà, je ne trouve pas qu'il y a un apport considérable ou deux pistons.
Moi, je suis d'accord.
Oui, il y a cette mode. Si tu retrouves Théo Hernandez, par exemple, tu te dis que tu as peut-être intérêt à jouer comme ça.
Oui, lui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai que c'est un joueur. Mais il l'amènerait aussi comme latéral. Ou son frère l'amène comme latéral.
Donc oui, toi tu joueras à 4, pourquoi? Oui, parce que ça te sécurise plus, quoi.
Oui, parce que je trouve qu'on met un joueur. Non, mais surtout,
c'est pas que ça te sécurise plus, ça libère plutôt
de temps. On perd un joueur au milieu.
Tu perds un joueur au milieu.
Après, quand on dit au milieu, on se dit mais qui? Donc c'est le serpent qui se mord la queue.
Oui, mais bon, parce que là, il y a encore beaucoup d'absents et de blessés.
Ah, donc c'est la pauvreté de notre milieu de terrain qui pousserait à mettre 3 défenseurs et 2 mecs dans le couloir. Alors, dans ce cas-là, c'est pire que ce que je pense alors.
C'est vrai
tu mets le nom sur une feuille, tu mets les milieux de terrain. Je te dis, on est pauvre. Il faut que je me concentre pour trouver les noms. Il faut que je me concentre.
Mais les noms, ils sont là.
J'aime bien Tchouaméni, Kamavinga, mais c'est des jeunes joueurs. C'est rare que tu brilles dans des grandes compètes avec des gars qui ont besoin d'apprendre ce que c'est qu'une grande compétition. C'est compliqué.
Ouais, en fait, la hiérarchie, on la connaît. C'est bon, Pogba, Kanté. Bon, s'ils sont pas là, derrière, c'est Tchouaméni, Rabiot.
Guendouzi,
Kamavinga, et puis voilà. Fofana, Veretout.
C'est pauvre. Voilà. C'est pauvre. Peut-être on n'est pas dans le film d'horreur, mais on est dans le film.
C'est un peu dans le film d'épouvante,
comme ce soir. C'est un peu Scream, quoi.
Donc, si tu joues en 4-3-3. Eh ben, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ou alors tu fais Griezmann un peu plus bas, j'en sais rien moi, mais là,
si, je trouve que Moussa Sissoko revient bien quand même.
Le milieu de terrain est une zone bien trop délaissée. Le milieu de terrain, c'est le moteur de l'équipe. C'est une base essentielle.
Bon, voilà pour le match de ce soir.
Tous les déboires du PSG ces dernières années en Coupe d'Europe, hein, c'est le milieu de terrain. C'est là toujours qu'il y avait principalement un souci.
Évaluation, les gars. Oui, alors, là, on n'a pas d'explication claire sur Varane, d'ailleurs. Peut-être que Deschamps va en parler un peu plus tard.
C'était pas genre faire tourner, simplement?
Bah, si, mais pourquoi faire tourner? Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même un match officiel. Ouais,
je pense que Varane, il est avec des pincettes aussi. Il y a des chances, c'est quand même un joueur qui a multiplié les blessures, voilà. Ouais. Qui a pas mal joué en septembre.
Ouais, il devait avoir une raison.
Bah, il a fait jouer un mec qui joue au Bayern, hein.
Mais qui est pas, qui lui est décevant dans sa progression.
Tout à l'heure, t'as dit, il fallait pas surtout pas dire ça.
Ok, mais il le remplace par quelqu'un qui
a un moment doit
se montrer quand même, doit progresser.
Bon, là, il y a aussi un problème de gardien. Donc, quoi qu'il a fait quelques arrêts ce soir.
Ce serait dur de lui.
Honnêtement, quand tu lui tires dessus, il arrête les ballons.
Sur les deux pions qu'il prend, il peut pas non plus faire grand chose.
La frappe d'Olsen, Maignan, la sort pas.
Après, encore une fois, c'est un faux débat.
Il fait un arrêt, un moment, il fait pas exprès. L'autre, tu tires dessus.
Il y a deux gardiens devant lui qui, espérons-le, seront là, quand même.
Oui.
C'est sûr que si on fait la Coupe du Monde avec l'équipe qu'on a vue ce soir, on va passer le premier tour, c'est évident. Mais
on va
avoir une autre équipe, quand même.
Évaluation, on la continue toujours, parce que j'aimerais... Alors, il y en a un qui était un peu en perdition ce soir, c'est le pauvre Upamecano, qui était là, il a fait un mauvais match.
Franchement, ils sont pas top.
Saliba,
le temps qu'il est sur la pelouse, c'est pas génial. Ouais. Il y a des relances ratées.
Ouais, il sort à la mi-temps.
C'est pas génial. Dès que t'es sous pression, c'est plus la même histoire.
En plus, c'est des débats. Ces histoires de défense, c'est des complémentarités, c'est des associations, c'est une confiance que l'un a pour l'autre, etc. Donc, c'est très compliqué de cibler individuellement ces trois joueurs-là, quoi.
Et surtout quand tu mets une défense à trois.
Surtout bien... avec des joueurs qui ont 22 ans de moyenne d'âge. Je crois que
22
ans de moyenne d'âge, des joueurs qui ne sont pas habitués à évoluer ensemble. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments.
C'est vrai.
Bon alors, ok. Soyons un peu indulgents avec eux alors.
Ouais, je pense, ouais. Ouais. Bon.
Le milieu, on en a parlé.
Pas non plus, hein, parce que c'est des joueurs. Si ces joueurs-là ont l'ambition qu'ils affichent, il faut effectivement qu'ils s'y mettent, quoi. Sérieusement, il y a des joueurs qui doivent. Upamecano, c'est un joueur qui a une progression qui, pour l'instant, est inquiétante quand même. On pensait qu'il allait casser.
Exploser, exactement.
Et c'est pas le cas, donc.
Giroud, alors jeudi soir à la même heure, on en était là à dire à Giroud, faut absolument qu'il y soit, il y a aucune raison qu'il y soit.
Pas bon, Mbappé, pas terrible.
Là, ce soir, on a même encore pas dit un mot de Giroud.
Les mecs sont pas bons ce soir. Mbappé est pas terrible non plus. Il arrive quand même à se créer 2-3 opportunités. Griezmann, bon début de match et puis il s'est éteint. Les joueurs offensifs, c'est difficile d'en parler. Les mecs sont pas bons.
Ils ont quand même. En deuxième période, ils sont repartis quand même, Daniel. Sur la deuxième mi-temps, l'équipe de France a plus d'occasions nettement que le Danemark. Après, Mbappé est pas clinique et c'est un de ses défauts. Et c'est qu'il aurait, il a l'occasion de ramener l'équipe de France à 2-1 dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps.
Oui, c'est vrai ça.
Celle-là, pour un joueur de ce niveau, ça peut y être.
Exactement. Bon, voilà pour l'évaluation. Griezmann, t'en as parlé tout à l'heure, Stéphane, disant qu'il
Mbappé
est pas mal en ce moment.
Peu le piquer. Le ballon piqué, souvent il frappe, il peut même être précis dans ses frappes et tout, mais il n'a pas une palette
technique. Il a eu des frappes ce soir au poteau de corner, hein, c'est que deux ou trois quand même, c'est assez troublant pour lui.
Hein. Mmh. Le piqué, c'est plus sud-américain désormais. Messi, Di Maria.
Ça fait partie, c'est une palette de la technique d'un joueur.
Thomasson, bien sûr.
Mbappé est un très grand joueur, mais il y a des choses techniques qui lui manquent, qu'il n'a pas. Il y a des choses dans sa palette.
Non, mais je crois que le jour du soir, c'est qu'il manque clairement à Ludovic Ajor qu'à l'équipe de France. N'est-ce pas, Gilbert?
Je comprends pas pourquoi il n'est pas appelé, Gilbert.
Thomasson au milieu, pareil. Pourquoi
Thomasson, très du bien.
Que Keller ne mette pas de la pression à la Fédé.
Ouais. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Lienard, bien sûr. Bon, Lienard, c'est. Bon, bref.
Alors, arrêtons de déconner. Couloir gauche, qui joue ce soir.
Alors, non, mais blague à part. Évaluation finie. Maintenant, on va faire une pause et après, quand même, projetons-nous un peu vers la Coupe du Monde. Parce que quand on regarde le premier groupe.
On vient de le faire. Tu vas te projeter
où? Non. Parce que là, il y a 50 jours. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? 58.
Il va se passer qu'on s'en fout et qu'il y a des tirages à Mormoelneux dont on n'a rien à cirer. Il y a la Ligue des Champions et c'est ça qui va nous occuper. Et les Bleus, on en reparlera une semaine avant.
Non, là, ce qui va surtout nous occuper, c'est la santé des uns et des autres.
C'est ça.
On va guetter ceux qui reviennent, ceux qui jouent.
26, la concurrence.
On va mettre le docteur Gubler sur l'affaire.
Je crois qu'il exerce toujours.
Mais je crois qu'il a donné une interview récemment. Là,
le médecin de François Mitterrand pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent.
Je pense qu'il n'exerce plus.
C'est très 90s.
Il était déjà âgé quand même, le docteur Gubler.
Il n'était pas très jeune. Les roues flaquettes les plus célèbres de l'histoire de la médecine.
Mensonge d'État.
Allez, avec à tout de suite dans l'after.
Il y en a quelques-uns des mensonges d'État avec Mitterrand.
Et ah, ça, le reste de l'actu dans l'after, tout de suite. Il n'y aura pas de mensonge d'ici minuit dans l'after.
RMC. After Foot. Coupe du monde de la FIFA 2022.
Gilbert Brivois.
23h32, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Oui, j'aimerais, avant qu'on parle de l'actu du jour, il y en a pas mal, tout de même qu'on se projette un peu, parce que quand on voit notre équipe de France dans l'état dans lequel elle est là, et les adversaires, bon, le Danemark, oui, bah, le Danemark, deuxième adversaire de la France, la Tunisie, dernier match, bon, est-ce que ce dernier match sera décisif, on verra. L'Australie, ça va être compliqué, c'est toujours compliqué contre l'Australie, premier tour. Est-ce que, enfin, quel est votre degré d'inquiétude, les gars, tout à l'heure, on comparait 2010, là, effectivement, tu vas démarrer sans préparation. Ok, tout le monde pareil, mais enfin, voilà, quel est votre degré d'inquiétude à 50 jours du début ?
Sur le, moi, honnêtement, sur le premier tour, j'ai pas d'inquiétude. Voilà.
Tu vois, la France est qualifiée malgré tout.
Ah bah je, oui, oui. Si on, si on, bah là, ce serait un cataclysme.
Enfin, moi, je vois pas les Bleus se balader. Hein.
Pas certain, non, non, mais évidemment, mais tu te balades jamais. Mais c'est.
Déjà, c'est pas le Honduras. Et puis, je sais plus ce qu'on a vu en 2014. Là, bah, la Suisse avec qui on a mis une branlée. Ouais, c'est ça.
Ouais, oui, ouais, j'ai deux équipes au Sud-Am.
Équateur, Honduras,
on a eu une CONCACAF.
Voilà. Centre-américaine.
Ah, c'est ma zone. Moi, je pense, enfin, voilà, sur le premier tour, il n'y a pas de. La meilleure équipe, c'est celle qu'on a jouée ce soir. Bon, il n'y a pas. Oui, il y aura match, ce sera compliqué. Daniel a raison, il faut respecter évidemment cette équipe-là. Mais enfin, on peut quand même regarder Danemark dans les yeux, quoi, ça va.
Ah bon, moi, je me souviens aussi de 2006. Alors, après 2006, il y a eu un final, mais on arrive au dernier match contre le Togo en flippant.
Ouais,
vous vous souvenez quand même de tout ça. Enfin, moi, je ne sais pas. Mon degré de confiance, il est quand même. Ce soir, il a baissé de plusieurs crans quand même.
Mais comment il était jeudi, tu vois, c'est ça le souci qu'il faut pas avoir.
Non, il
sur
était
ces
pas
matchs-là.
Super jeudi après l'Autriche. Hein. L'Autriche, le fond de jeu était pas formidable non plus. J'étais pas très confiant non plus. Moi, le seul truc, c'est que l'expérience de ces compétitions-là, maintenant que je suis plus tout jeune quand même, montre que projeter ne sert à rien. Donc, je pense que ça ne sert à rien de se projeter, vraiment. Il n'y a pas une Coupe du Monde qui s'est déroulée exactement comme on le pensait. Non, vraiment, je pense que ça ne sert à rien du tout. Vraiment.
Tiens, écoutez, Antoine Griezmann, il est en direct là.
Et aussi, ils sont venus nous chercher haut. Donc, nous, on a essayé de jouer. On n'avait peut-être pas la confiance à ce moment-là pour ressortir de derrière. Donc. Il ouais, fallait essayer de trouver Olive. Donc voilà, après on a parlé à la mi-temps, on a essayé de régler deux, trois choses, mais voilà, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces.
Il y avait trop de nouveautés dans cette
équipe. Après ça, c'est le coach veut voir les joueurs, on essaye de trouver des solutions et voilà, on va pas dire que c'est la faute à beaucoup de changements. C'est sur les corners, on n'a pas été bon et ça peu importe les joueurs, c'est la mentalité où faut gagner les duels, où on n'a pas été bon non plus dans les duels. Devant, on a été un peu timide, on a raté les derniers gestes, donc voilà. Mais ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde.
Est-ce que vous êtes inquiet ?
Voilà, pour.
Non, pas du tout.
Bah, il n'est pas inquiet, vous l'avez entendu là sur la fin comme Deschamps. Donc,
voilà, si personne n'est inquiet, on ne va pas être inquiet pour eux.
Il n'y a que moi qui suis inquiet en fait.
Voilà, c'est ça, il n'y a que toi qui es inquiet.
Et toi aussi, tu es inquiet.
Non, mais c'est quand même très bizarre que tu sois inquiet sur les Bleus à ce point-là, alors que pour Strasbourg, tu n'es pas inquiet du tout. Alors qu'ils n'ont pas gagné un match depuis le début de la saison.
Bah ouais. Écoute, il y a encore 30 journées.
C'est bien ce que je pensais.
Comment ça, j'ai pas de réponse? Non, j'ai déjà expliqué, la voiture à traction.
Ah oui, c'est
ça. Je vais pas te refaire.
Oui. Est-ce qui t'inquiète le plus pour la Coupe du Monde des Bleus, Gilbert?
Bah non, mais c'est que là, t'as peu de certitude, et puis t'as peu d'efficacité. Enfin, je sais pas, tu connais pas l'état de forme des joueurs à l'arrivée, là. Benzema, il est blessé. Enfin, moi, je.
Benzema, il va revenir.
Deschamps, il n'arrive pas à changer de système. Il va partir là. Puis tout ce que vous avez dit, le milieu, la défense. Enfin, moi, je sais pas.
T'as le droit d'être inquiet. On reste avec ton inquiétude. Et puis, t'as 50 jours pour à vivre avec maintenant.
Ça n'était pas une petite odeur de 2010?
Moi, je suis d'accord. En se projetant, c'est imaginer que ce qui s'est passé va se repasser. Ouais. Alors qu'il va se passer un truc qu'on n'imagine pas. qu'est-ce que ce sera? Peut-être bien mieux que ce qu'on imagine, peut-être pire. Donc, oui. C'est vrai que ça sert pas à grand chose.
Je veux pas imaginer un but de Cazeri à la 88e du troisième match contre la France. Je vous l'aurais dit là.
C'est quoi le truc ces dernières années qu'on n'a pas fait? Être éliminé en poule 2010. En huitième, à l'Euro.
Ouais.
Quart 2014.
L'Euro de Laurent Blanc, quart.
Ouais, l'Euro de Laurent Blanc.
2012. Ah oui, 2012. Ouais. Et
2014.
Et 2014, c'est quart aussi.
Ouais.
Contre l'Allemagne.
Ouais, c'est vrai.
C'est la défaite en demi-finale qu'on n'a pas fait depuis longtemps.
Demi, on n'a pas fait depuis 86.
Depuis 86, on n'a pas
fait. La défaite en demi, c'est un truc moins, quoi.
Ce serait pas mal.
Défaite en finale, Euro 2016.
Si on est en bête en demi-finale de la prochaine Coupe du Monde, bien. Ce sera un contrat rempli.
Bon, allez, on va conclure là-dessus avec Nico. Nico, 32-16, bonsoir.
Bonsoir, ça va?
Ça va et toi?
Ça va.
Bon, alors toi, ton degré de confiance, là, pour la Coupe du Monde, il est comment?
Ah, il est pas top. Il est vraiment pas top.
Tu posais cette question-là un soir de défaite, c'est quand même très pervers, Gilbert. Pardon, mais...
Sur Direct Sud, il y en a qui me disent en 2010, Gilbert annonçait le jackpot Messieurs Dames. Et là, il est inquiet, donc c'est bon signe.
Après, les gars, vous savez.
L'histoire du jackpot a toujours été très, très mal interprétée.
Bah oui, mais bon,
il y a toujours
une partie du spectacle.
Tellement mauvaise lecture de ton envolée lyrique de ce soir-là.
Oui, c'était une soirée de tirage au sort. C'est vrai que le tirage au sort qui nous donnait Mexique.
Le tirage au sort est un jackpot.
Uruguay et je ne sais plus. Afrique du Sud. C'était le jackpot.
C'est
le
jackpot.
Ah oui.
À l'époque, c'était jackpot. En décembre, je veux dire.
Oui, puis 2009. Il y a un truc que tu sais pas non plus. En pensant à 2010, tu vois, où l'Uruguay a été l'une des équipes du tournoi, par exemple.
On
l'imagine. Ou le Mexique aussi, d'ailleurs. Peut-être que le Danemark va être l'équipe révélation de la Coupe du Monde, quoi. Peut-être. Peut-être pas non plus.
L'Australie
et Tunisie, j'ai quand même plus de mal à l'imaginer.
Une défaite en demi, on n'a pas cité.
Si, tout à l'heure, il l'a dit, Stéphane.
Non.
Ah, depuis 86?
Non. Il a dit qu'il fallait remonter à 80.
Ah, non.
Ah, il y en a une qu'on a oubliée.
Ah, le pénalty de Pedros.
Ah, 96. Oui, 96.
Ouais. c'est vrai, t'as raison.
Contre les Tchèques. Ah, ça, c'est vrai qu'on se voyait les éclater, les Tchèques. Ah, encore une erreur. Nicolas, oui, pardon, on t'a coupé.
Oui, je disais aussi, on peut rajouter la fameuse malédiction du champion du monde en titre.
Donc, toi, tu veux rajouter de l'inquiétude sur l'inquiétude de Gilbert.
Oui, c'est vrai.
Tiens, d'ailleurs, à ce propos, il y a un truc d'organisation dont on n'a pas parlé. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde, les sélectionneurs ont droit à des listes de 26, ce qui est du jamais vu. Et vraisemblablement, Deschamps, il ne veut pas 26, lui. La tendance, c'est plutôt qu'il fasse 23. Enfin, c'est ce qui a été expliqué à Clairefontaine.
Je crois qu'il avait changé d'avis, qu'il voulait justement finalement prendre 26, vu les...
Ah non, moi j'ai entendu 23 aussi.
Les problèmes de blessure qu'il a eu là, non?
Bah écoute, moi je l'engage à prendre 26. Enfin, peut-être qu'il a changé d'avis depuis, mais moi je te réfère sur les dernières déclarations. Je vois pas où est le problème en fait.
Bah, tu gères la frustration de 4 joueurs de plus qui jouent pas, quoi, de toute façon. Ils joueront à 11, hein, même s'il y aura, oui, il y aura 5 changements, oui.
Oui.
Donc.
La malédiction du premier tour, c'est dès 2002 que ça a commencé, que le tenant se fait taper en poule.
Oui, exact.
Ouais.
Mm-hmm. D'accord.
Tu vois?
Bah, non, parce qu'en 2006, le tenant du titre, c'est le Brésil. Et le Brésil, ils se font pas taper en poule, ils se font taper en quart.
Donc c'est la malédiction depuis 2002.
Oui, d'accord, mais 2006, elle tient pas, la malédiction.
Après,
Italie, Espagne et Allemagne. Donc sur les trois dernières éditions, le champion du monde en
titre. Oui, sur les trois dernières, mais la malédiction, oui, en 2006, elle y est pas, par exemple.
Oui, elle y est pas en 2006, tout à fait.
D'accord. Non, c'était pour faire un bilan malédiction.
Bon, allez.
Qui a gardé son titre de champion du monde? Depuis combien de temps c'est pas...
Ah, garder le titre, c'est Brésil 58-62.
Il est arrivé depuis, non? Non.
Ben non, 70-74, 82, non, 86, Allemagne.
Les finales,
non,
les victoires, non. Mais ils n'ont pas fait deux.
Tiens, ça me fait penser, mardi, on sera au Parc des Princes.
Déjà que Euro et c'est rare.
Mardi, on sera au Parc des Princes parce qu'il y a un match sympa qui est Brésil-Tunisie, match amical organisé donc, au Parc des Princes. Parce que les Brésiliens, vous savez, ils font souvent leur match amical en Europe. pour des raisons logistiques. Et on sera sur place, ce qui nous permettra de faire une spéciale Coupe du Monde pour parler aussi des autres, c'est-à-dire les grosses équipes, voir un peu qui impressionne, n'impressionne pas. Et c'est très intéressant d'avoir le Brésil, parce que quand on regarde sur le papier l'équipe brésilienne, c'est quand même assez, assez dingue.
Oui, bah comme à chaque Coupe du Monde, ils vont être, voilà. Ils vont être dans les favoris. C'est une habitude, ça.
Il paraît que l'Argentine turbine bien aussi, donc on fera un petit tour du monde là mardi. On ira dans tous ces pays pour à deux mois du départ.
Est-ce qu'on aura un Australien pour nous parler de notre adversaire ?
Ah, on peut essayer de trouver.
Ah. Ouais, on peut essayer. Il y a longtemps qu'il n'y a pas une équipe sud-américaine qui a brillé en Coupe du Monde. Hein, ceci dit, c'est depuis 2002 en fait. C'est les équipes européennes qui dominent les dernières Coupes du Monde, très nettement même. Donc si on prend les quarts de finaliste,
on a l'Argentine. L'Argentine 2014. Ouais. Ouais. Allez, dans quelques instants, le reste de l'actu. Je vais d'abord vous parler des U18 français qui ont brillé aussi aujourd'hui de mille feux dans un tournoi.
Franchement, c'est formidable.
Je remercie Nicolas au 32-16 et puis un petit mot de mercato également à suivre dans l'after. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC After Foot Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Gilbert Brivois.
23h45, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Les gars, tiens, petit point sur l'autre semaine, parce qu'il n'y a pas de match hein, cette semaine. On vous a préparé quelques afters sympas. Donc, mardi, spécial Coupe du Monde en direct du Parc des Princes avec Brésil-Tunisie. Mercredi, sachez qu'à 22h dans l'after, on aura Julien Fournier. Très intéressant.
Ah oui.
Pour parler de Nice, pour parler de Galtier. Rappelez-vous qu'il avait allumé allègrement Galtier. Alors, il bosse aujourd'hui à Parme. Julien Fournier, l'occasion de parler aussi d'Ineo. Maintenant, il a une parole libérée.
Et qu'il mange bien.
À Parme.
Parme est une des villes où on mange le mieux.
C'est pas la plus belle ville d'Italie quand même, Parme.
Ah mais je sais pas, est-ce que je t'ai
parlé. Il vit à Parme, oui, il vit à Parme.
Bon, on verra, je pense, si tu bosses pour Parme. Tu penses qu'il peut faire une campus ? Tu bosses pour Celta Vigo
à Paris ? C'est assez courant maintenant dans le foot. Même pas que dans le foot d'ailleurs, le télétravail.
Ouais. C'est vrai. Donc ça, ce sera mercredi. Et puis dans la semaine, on va également faire ce débat qu'a lancé la revue de l'After, puisque vous savez que Daniel est allé voir Bruno Genesio pour une grande interview dans la revue qui est actuellement en kiosque. Et ça a fait un débat, ça a créé un débat enflammé parmi les supporters de l'OL ces derniers jours. Bruno Genesio dit, si moi j'avais fait la saison de Peter Boss, donc 8e pire saison de l'OL du 21e siècle, je me serais fait massacrer. Voilà.
Donc, il a raison.
Les Lyonnais qui disent, il a raison. Comme Stéphane, et puis voilà. Il y a lui qui dit n'importe quoi. bon. Donc on va en débattre cette semaine également. Bon, je reviens donc sur l'actu du jour. Ouais, alors, ces fameux U18, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est l'équipe entraînée par Bernard Diomède qui jouait un tournoi amical à Limoges.
On a réputé pour les 18 ans à Limoges tous les ans.
Voilà, exactement. Le tournoi Lafarge Foot Avenir.
Lafarge comme le cimentier.
Bah je pense que c'est ça. Hein, Lafarge, j'ai pas l'impression que c'est autre chose.
Je ne sais pas.
Je crois. Si je me trompe pas, c'est un ancien. C'est un ancien. C'était R, un conseiller technique régional Lafarge. Ah, me semble-t-il.
C'est pas le ciment.
Voilà.
C'est
pas ceux qui fournissent qui continuent de fournir du ciment en Syrie quand les terroristes islamistes avaient pris le pouvoir.
Voilà.
Tout à fait. Parce que nous, on a l'équipe Lafarge.
Mais ils continuent quand même d'avoir pignon sur, il n'y a pas de problème.
Hein. Quand je fais les passes décisives, les centres, ils mettent tout au fond.
Bah là, franchement, c'est un centre de Jérôme Bretagne. Il n'y a plus qu'à mettre la tête en opposition.
C'est même pas Dolberg tout à l'heure, il a fallu qu'il s'arrache pour la touche.
Il avait un très bon but, Dolberg.
Alors, donc, ce match France-Pologne. Alors, la France, il suffisait qu'il fasse match nul pour gagner ce fameux tournoi. Mais il y a eu 4 expulsions en 20 minutes. Il y avait 2-2. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un jeune attaquant parisien, il s'appelle Ousni, qui prend un rouge. Derrière, 5 minutes plus tard, un défenseur rennais qui s'appelle Bélossian prend un deuxième jaune, carton rouge. Là, la France se retrouve à 9. Les Polonais marquent. La pression monte. Et derrière, les Français pètent un plomb. À l'image du défenseur du Havre, Gomis, qui lui a mis un coup de tête à un adversaire. Alors, c'est pas un coup de tête en mode Depardieu, Pierre Richard. Hein. C'est un coup de tête un peu en mode foot, c'est un peu tête contre tête, puis hop, il appuie comme ça. Bon.
Le quatrième, enfin, c'est un vrai coup de tête. J'ai vu carton, l'image du quatrième rouge.
Ah, tu trouves que ça.
C'est un vrai coup de tronche, ah oui. Ah si.
Mais c'est pas un coup de tronche à la Campana qui part de là. Non.
Peut-être pas à la Campana. Dans le
quoi qu'il en soit, c'est une bonne attitude de merde, bonne attitude de petite racaille. Ils ont pris 4 cartons rouges.
Et donc le match ne s'est pas terminé, puisque du coup, pas assez de joueurs, c'est le règlement. On arrête le match avant la fin, donc c'est quand même la honte. C'est une sélection nationale, alors, même si c'est des gamins, c'est des jeunes.
C'est une sélection nationale qui dépend de la Fédération Française de Football qui est à la rue.
Bon, voilà.
Voilà.
Mais alors, j'attire votre attention sur un truc quand même. Il y a beaucoup de problèmes dans cette tranche d'âge sur les comportements sur les terrains.
Ah,
sur
tu m'étonnes beaucoup, là.
Pourquoi ?
Bah, parce que tu m'étonnes pas du tout.
Bon.
Bah, non, c'est normal, c'est des enfants qui grandissent en France. Vu l'état de notre société, ça ne m'étonne pas.
Beaucoup de soucis, effectivement.
Vu l'état de notre société et l'état de l'autorité dans ce pays, ça ne m'étonne pas.
Oui, on a du mal à...
Oui, puis encore une fois, l'exemple vient d'en haut. Est-ce qu'on voit ce week-end après week-end sur les terrains du haut niveau peuvent pas donner des bons exemples.
L'exemple vient d'en haut, quand tu vois ce que tu vois à la Fédé. Ça suffit largement.
Ouais, ouais, mais même puis dans les stades.
À la Fédé, quand tu vois le président, en tout bien tout honneur, avec ses appuis politiques et homme normalement bien sous tout rapport, comme il s'est comporté pendant des années, effectivement, on peut souligner le comportement des petites racailles, mais les pontes de notre pays ne se comportent pas mieux. Et Madame Florence Ardouin, la grande dame intelligente, machin, elle aussi, effectivement. Ça va être compliqué de donner des leçons quand, haut, ça se comporte pas mieux. Effectivement.
C'est bien le problème.
C'est un autre type de
société. C'est
bien
le problème
de notre pays en ce moment.
Bon, voilà, je voulais vous raconter cette histoire. Évidemment, alors, je sais pas comment la Fédé va réagir à tout ça. On verra demain.
Après, est-ce qu'on ne sait pas honnêtement, Daniel, on n'a pas. Enfin, je sais pas si vous avez vu le match.
Non, on n'a pas vu le match en intégralité. Mais voilà, là, on a quand même déroulé.
Est-ce que l'arbitre a maîtrisé l'événement aussi? Est-ce que voilà,
quatre cartons rouges, c'est assez rare.
C'est rare. Bon, 20 minutes. En 20 minutes.
Voilà, en 20 minutes. Je pense qu'on est dans quelque chose de totalement exceptionnel. Je ne crois pas qu'il faille chercher de l'indulgence. Il faut arrêter avec l'indulgence.
Ces gamins-là qui ont 17 ou 18 ans, ils sont quasiment tous dans presque tous des contrats pro déjà. Ouais. Ils sont dans des centres de formation. Ils ont joué déjà des centaines de matchs. Tu dois savoir te maîtriser au bout d'un moment. Quand tu vois que t'es à 9, bon, bah, t'arrêtes les conneries et puis c'est tout. Là, ils l'ont pas fait. Bon. Le Qatar.
Tu dois respecter la Fédé et le maillot que tu portes quand tu vois comment se comporte la Fédé. Je le répète, c'est également un drame.
Le Qatar qui a été visité par Gary Neville. Alors Gary Neville, figurez-vous, dans le cadre d'un documentaire, il est allé visiter les lieux d'habitation des travailleurs au Qatar. Et il a raconté tout ça dans le Daily Mail. Et il a dit, voilà, bah, c'est simple, hein, si c'était mon fils ou ma fille, évidemment que je voudrais pas qu'il soit dans cette situation. Il dit, la richesse de ce pays et ce niveau de logement pour les gens avec le sacrifice qu'ils font, c'est une inégalité à laquelle vous ne pouvez pas croire. C'est stupéfiant, dit Gary Neville, qui donc est allé, c'est assez rare quand même qu'un ex-footballeur
aille
sur le terrain, voir les conditions de travail.
Mais il y a beaucoup de reportages des ouvriers, très documentés que je vous invite à consulter dans la presse française cette semaine. Il y en a un dans Society qui est signé de Quentin Muller, qui est un journaliste français qui a le plus enquêté sur le terrain là-bas au Qatar.
Oui,
c'est édifiant et qui va publier un livre d'ailleurs au début du mois d'octobre. Et puis il y a également une enquête en plusieurs volets d'une envoyée spéciale de Mediapart qui est allé aussi enquêter au plus près des travailleurs qatariens. Et c'est des témoignages qui sont glaçants, quoi, qui sont glaçants.
Sans surprise, ce sera dans la prochaine revue de l'After qui sortira juste avant la Coupe du Monde. Maintenant, il faut que je vous parle de l'UEFA. Oui, parce que l'UEFA a sanctionné, hier, on l'a appris aujourd'hui, trois clubs pour comportement raciste ou discriminatoire. Il y a Francfort, rappelez-vous du match à Marseille. Il y avait eu des saluts nazis. Alors Francfort, pour ce match face à Marseille, a pris 15 000 euros d'amende pour comportement raciste, 30 000 euros à cause des feux d'artifice. Ah, ça, c'est assez marrant parce que tu vois que finalement, tirer des feux d'artifice pour l'UEFA, c'est plus grave.
Plus grave que de faire des saluts nazis.
Que de faire des saluts nazis. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies. Bon. Donc ça, c'est Francfort. Du coup, ils ont également été sanctionnés de fermeture partielle de stade pour leur prochain match. Et en plus, ils doivent rembourser à Marseille sous 30 jours les dégâts causés, sièges cassés, etc. Francfort, premier dossier. Deuxième dossier, la Juve. Là, c'est le match à Paris. Rappelez-vous, match de Ligue des Champions, pareil, salut nazi, amende de 15 000 euros, la même, fermeture partielle du stade, donc à Turin, au moins 1000 places fermées, voilà, suite à ce match à Paris.
Est-ce que ça répare quoi que ce soit? Je veux dire, 15 000, c'est une bouchée de pain pour un club.
Bah, j'allais y venir.
Moi, honnêtement,
alors, laisse-moi finir.
Moi, je me fous, c'est juste, tu dois gérer les mecs qui sont dans les stades, quoi.
Non, il y a un autre club.
Tu chopes le gars qui fait ça, interdiction de stade et on n'en parle plus.
Alors Zagreb, ils vont prendre aussi cher eux, mais...
Zagreb, c'était incroyable.
Non, mais là, le troisième club, c'est Nice. Nice, coupable de comportement raciste, jet d'objets, feu d'artifice et troubles lors du match face à Cologne. Donc il y a peut-être eu des choses qui nous ont échappé à nous, hein, mais que l'UEFA a vu au stade.
Et Cologne n'a pas été sanctionné.
Et Cologne, non.
Alors, Nice a reçu donc l'ordre de jouer son prochain match européen contre le Slovako là, à huis clos.
Huis clos.
Ils devront,
c'est normal. Il va être bien ce match.
Ils devront l'obligation d'afficher une bannière de l'UEFA hashtag no to racism. Voilà, en répercussion des cas de racisme repérés en tribune. Donc, si l'UEFA fait ça, c'est qu'on a vu des choses côté niçois et pas côté Cologne.
Oui, enfin, Cologne doit forcément être sanctionné. Je veux dire, ils étaient agresseurs quand même.
Alors là, pour l'instant, on n'a pas les. Ah bon, voilà, pour l'instant, on a ça sur Nice. Donc, comportement raciste.
Mais Marseille aussi a vu Francfort, Nice et condamné.
Oui, alors lié là.
Fumigène.
Oui, le problème dans le stade. Ouais,
comportement raciste. Et effectivement, comme tu dis, 15 000 euros.
Qui étais à Marseille, qui ai commenté le fameux match, vous expliquiez également, c'est de voir dans la tribune qui n'était pas concernée. On voyait les gens, ils étaient morts de rire, ça les faisait marrer. Ils trouvaient ça, ils regardaient ces jets de fumigène d'une tribune à l'autre en rigolant.
Voilà. Oui, parce que
j'ai dit tout de suite, vous avez dû le dire également, voilà, ils vont avoir le stade à huis clos, c'est-à-dire qu'ils vont jouer peut-être, on ne sait jamais, si ça veut sourire contre le Sporting, ils vont devoir jouer une qualif en Ligue des Champions à huis clos. Et tout le monde se marre, tout le monde trouve ça super. Bah, tant mieux, alors marrez-vous. Continuez à vous barrer.
Deux, trois petites infos encore. La fédération allemande joue la transparence concernant les primes. Ils ont carrément fait un communiqué. Ils disent, on a décidé avec les joueurs. Sortir de la phase de poule, c'est 50 000 par joueur. Quart de finale, c'est 100 000 par joueur. Demi-finale, c'est 150 000 par joueur. Victoire, c'est 400 000 par joueur.
Voilà, France-Leçon en général aussi, ça, non ? C'est assez, on connaît avant la compétition en général la répartition des primes.
Alors oui, mais ça ne se fait pas forcément par un communiqué officiel. Ouais, c'est plus des indiscrétions. Ouais. Et après, la Fédé confirme pas forcément officiellement.
Moi, j'espère que tous ces hommes-là qui vont, s'ils gagnent ces primes-là et qu'ils les touchent, vont contribuer justement au fonds qui va être créé pour venir en aide aux familles de tous ces malheureux qui ont perdu des parents, des pères, des enfants, des frères dans la construction des stades pour cette Coupe du Monde de la honte.
Et puis pour conclure les gars, un petit mot de Mercato, vous dire que Magère est suivi de très près par Arsenal. Il a été supervisé une fois de plus là lors du match Danemark-Croatie. Croatie-Danemark.
Non, on n'est pas en période de transfert.
Ouais,
qu'ils le regardent autant qu'ils veulent. Après, s'ils le chopent cet hiver...
J'ai lu tout à l'heure aussi un échange de Depay-Firmino. Donc le mercato d'hiver est déjà dans
Tout le monde prédit un mercato d'hiver de feu.
Après
la Coupe du Monde. Et puis une dernière histoire colombienne que je voulais vous raconter, parce que là, le foot en Amérique du Sud, des fois, on est au-delà de toutes les dingueries et violences qu'on peut voir en Europe. Match entre le Deportivo Cali, qui est un gros club colombien, puis un autre, voilà. En fait, les supporters ont pris en grippe leur propre avant-centre, à tel point qu'ils ont envahi le terrain pour aller attraper l'avant-centre en question, qui est un ex-international colombien, il s'appelle Gutiérrez. Et donc, ça s'est terminé. La fédé colombienne, ils ont arrêté le match, ils ont entériné le résultat, circulé, il n'y a rien à voir, messieurs, rentrez chez vous, allez, au revoir. Hop. Voilà, ça se passe comme
c'est
ça.
C'est le Gutiérrez qui jouait en Argentine.
Ça se passe comme ça en Colombie.
Il y en a quelques-uns.
Ouais, c'est ancien attaquant de l'équipe nationale de Colombie et de River Plate.
Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est un gros joueur à l'époque. Ouais.
Voilà. Merci les gars, c'est fini. Demain, 20h, les drôles de dames, nos avis à 22h, évidemment, avec une belle semaine qui se prépare une fois de plus dans l'after. Et puis le RMC Poker Show qui arrive dans quelques instants. RMC Poker Show de Daniel Riolo, qu'est-ce que tu as au programme, Daniel ?
Absolument. Et c'est une émission exceptionnellement qui a été enregistrée. Dans le premier quart d'heure, il y a le témoignage d'un joueur qui a gagné 3 millions de dollars en une semaine, ce qui est un gain colossal en tournoi. Mais au-delà de ce gain, ce qu'il va raconter, je vous assure qu'en 10 ans de RMC Poker Show, je ne l'ai pas toujours entendu en matière de parties auxquelles il participe. C'est pour ceux qui aiment le poker, il va envoyer ses spectacles.
Très bien. Je pense que Stéphane va écouter.
C'est un joueur panache, le mec.
RMC Poker Show.
Le mec est panache. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le gars.
C'est chaud.
Le mec, il est vraiment panache, le mec.
Et puis, pour conclure, vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure avec Thibaut Jean-Grand, la Coupe du Monde a déjà démarré chez nous sur RMC. On a décidé de vous envoyer au Qatar pour le match France-Tunisie.
Pas moi,
c'est le 30 novembre. Non, c'est pas pour toi. RMC régale. Un vol, hébergement, place pour le match. Pour participer au tirage au sort, il faut envoyer RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. allez. Bonne chance, et à demain soir.
Ciao, dans
l'After
à 20h.
Oui.
RMC, After Foot, Coupe du Monde de la FIFA 2022.